Voilà, l'idée de cette présentation que j'avais demandé donc au CRPF et notamment à Léa, c'était de montrer que finalement quel était le rôle du CRPF en tant que conseil finalement auprès des populiculteurs. Et donc effectivement l'idée du CRPF, c'est de promouvoir des bonnes pratiques pour favoriser justement une gestion plus durable des peuplerets. Donc il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés. Donc déjà pour rappel, donc le CRPF, donc c'est un établissement public en charge du développement de la gestion durable des forêts privées, donc qui joue un rôle dans l'agrément des documents de gestion durable. Donc en effet les propriétaires forestiers doivent avoir un plan de gestion durable au-delà de 25 hectares, c'est ça? 25 hectares et conseiller entre 10 et 25, je dis pas de bêtises.
Enfin, l'obligation c'est au-delà de 25 hectares et ensuite aujourd'hui avec les outils appropriés, tout propriétaire, quelle que soit sa surface, peut avoir un document de gestion durable pour rentrer dans cette logique. Ça s'appelle le code des bonnes pratiques sylvicoles.
Voilà. Donc voilà, pour dire que y a un certain nombre de règles auxquelles doivent se conformer, merci beaucoup, auxquelles doivent se conformer les propriétaires, notamment donc de boisements et notamment de peupleraies, même si souvent, pour les peupleraies, on est quand même le plus souvent sur des surfaces plus faibles, et effectivement, ce qui n'empêche que, voilà, ils peuvent se... donc il y a aussi un rôle dans le regroupement de la propriété forestière, c'est ça, pour là je ne sais pas ce qu'elle avait voulu, mais je pense que c'était pour essayer d'avoir des plus grandes surfaces, donc favoriser le regroupement peut-être des propriétaires forestiers pour avoir des plus grandes surfaces gérées et avoir ainsi un plan de gestion durable commun. Et donc, sinon, le rôle du CRPF, c'est un rôle de conseil aux propriétaires forestiers. Alors, conseil notamment dans le choix des terrains. Donc, on l'a vu avec l'intervention donc d'Éric Bayassa. Donc, l'importance hein, de planter le bon cultivar sur la bonne station. Et donc, ça, c'est un peu le rôle des techniciens du CRPF de conseiller les populiculteurs dans leur choix de cultivar, qui soient des choix adaptés à la station en question. Avec donc un choix des terrains qui soit donc avec des sols qui soient suffisamment profonds, bien alimentés en eau et qui soient suffisamment riches, comme on l'a vu ce matin. Donc des conseils aussi donc en lien avec ces terrains, donc dans le choix des cultivars pour qu'ils soient résistants aux maladies, comme on a pu le voir avec le problématique du puceron la Niger, pour que ce soit également rentable pour les populiculteurs, donc avec une rapidité de croissance, une qualité de bois aussi, parce que, évidemment, hein, quand ils plantent leur peuplier, c'est pour pouvoir en vendre le bois, pour pouvoir vendre le bois aux industriels, donc pour pouvoir le vendre aussi le plus cher possible. On a vu la problématique du prix du bois du peuplier, pour qu'il soit aussi, si possible, résistant au vent, qu'il évite la formation de branchaisons. Donc tout un tas d'éléments à prendre en compte. On voit bien la difficulté. On va avoir certains cultivars qui vont être plus adaptés à certaines problématiques. Et donc le CRPF joue un rôle dans le conseil de ces choix de cultivars. Le choix des plants aussi, donc en conseillant de se fournir auprès de pépiniéristes qui soient agréés, qui soient reconnus, avec donc des plançons qui soient âgés de 2 ans, qui soient bien lignifiés et équilibrés. Veiller à bien vérifier l'état sanitaire des plançons. Et puis des conseils aussi pour la préparation du terrain, avec une étape impérative pour assurer la préparation du terrain étant une étape impérative pour assurer la bonne reprise et donc le bon développement des peupliers. Donc c'est nettoyer le le terrain. Alors après, peut-être que ça rentre pas forcément en accord avec ce qu'on vient de voir par rapport au sol. Broyer les rémanents d'exploitation, arraser les souches plutôt que le dessoussage. Donc là, en l'occurrence, ça va plutôt dans le sens de ce que vous conseillez, Bernard Jabiol, puisque vous disiez que le dessoussage, c'est vraiment quelque chose qui pourra avoir un impact négatif sur le sol. Travailler le sol en surface en cas de boisement, sachant qu'aujourd'hui c'est quand même surtout du reboisement que l'on a plutôt que du boisement. Également pour la plantation, donc il y a aussi des conseils qui sont donnés parce qu'on ne fait pas la plantation à n'importe quel moment. Donc c'est plutôt favoriser la plantation à l'automne ou en fin d'hiver. La plantation se fait aussi à une certaine densité, donc respecter une distance de 7 à 8 mètres entre les plants. Respecter aussi une distance par rapport aux berges, qui est de 5 à 6 mètres, une distance par rapport à la ripisylve, par rapport aux riverains aussi. Et également par rapport aux autres boisements pour éviter les effets de phototropisme. Donc on voit qu'il y a tout un tas de préconisations qui sont données comme ça aux populiculteurs pour savoir comment ils doivent planter sur leur parcelle. C'est aussi comment planter les plançons, donc ouvrir des troncs entre 80 cm et 1,20 m de profondeur, en préconisant plutôt la tarière et les coïdades, bien tasser la terre. Là, je ne sais pas du coup si le... Ensuite, il y a également des protections contre le gibier, parce qu'on l'a vu, c'est une problématique importante. Les ravages du castor, mais aussi des autres types de gibier, et donc dans le cas en cas de on va dire de parcelles qui seraient le plus exposées à ce risque, hein, donc c'est d'utiliser des manchons, hein, donc qui vont être des protections comme on a pu voir sur la photo que vous aviez montrée tout à l'heure, hein, pour éviter que la destruction des plançons. Évidemment, si nécessaire, une fertilisation de départ et ensuite au départ, et ensuite en fait c'est inutile de rajouter des engrais. L'entretien du sol, donc qui est inutile comme on l'a vu, comme l'a rappelé ce matin Eric Payassas, donc c'est inutile pour les stations humides et fraîches, mais sinon donc il y a un entretien mécanique, alors donc pas du sol, mais de la végétation qui est sur le sol, avec donc ce qui va se faire uniquement les trois premières années, et sous ce qui est préconisé, donc c'est de faire cet entretien de la végétation, donc une ligne sur deux en alternance. C'est également des traitements chimiques, mais qui doivent être sélectifs, localisés, et uniquement les trois premières années, uniquement donc à hauteur du pied. Et c'est de moins en moins recommandé, d'autant plus que ça représente un surcoût pour le populiculteur qui n'est pas forcément nécessaire. Ensuite, il y a bien sûr l'entretien des arbres. Une fois qu'on a planté, il faut aussi l'entretenir. Donc il y a les tailles de formation qui vont se faire, donc, pour assurer le fait que le tronc soit bien droit. Donc il se fait dès la deuxième année, puis tous les ans jusqu'à ce que le débourrement atteigne 7 mètres. Et puis, il y a aussi les coupes d'élagage qui va se faire jusqu'à un minimum de 7 mètres. Donc, voilà. Au-delà de ça, il y a aussi un rôle de conseil pour l'obtention d'aide que joue que joue le CRPF. Donc, c'est la possibilité d'avoir des exonérations de taxes foncières et de l'impôt sur le revenu pendant 10 ans. C'est aussi la charte Merci le Peuplier qui vient donner donc une aide aux populiculteurs qui respectent certaines pratiques. Et puis, c'est une aide complémentaire donc du projet du Peuplier pour l'avenir, dont j'ai parlé ce matin. Pareil, qui vient compléter l'aide de la charte Merci le Peuplier si certaines exigences, celles prescrites par le CRPF, sont respectées. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été une bonne porte-parole du CRPF et notamment de ce qu'avait préparé Léa Goubet. Si vous avez des commentaires, des compléments à apporter par rapport à ce que j'ai pu dire, je vous en prie. Merci beaucoup.